Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro dans cette semaine de match international, toujours accompagné d'Arnaud Bernelet, journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Poulain Rafut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby au menu aujourd'hui. D'abord, comme chaque semaine, hein, Raph nous servira à son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir l'ancien troisième ligne internationale, Julien Bonner, 75 sélections au compteur. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief, hein, façon Poulain Rafut. Voilà pour le programme aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Avast ou Apple Podcast. Pardon. Surtout, abonnez-vous, hein, pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts? Poulain Rafut, saison 6, épisode 10, c'est parti. Allez, on débute aujourd'hui, Raph. C'est un hommage que tu as envie de rendre, un hommage à tous ceux qui mettent la tête là où certains ne mettraient pas un orteil. Raconte-nous un petit peu ce que tu as voulu dire, Raph.
Ben oui, Arnaud, il est bien clair que pour faire ce sport, déjà, il faut être un peu cintré, voire complètement débile. Prendre des coups, prendre des types dans la tronche, défendre, pousser, plaquer, se jeter sur des gonzes, parfois deux fois comme nous, toucher parfois un demi-ballon au cours d'une rencontre, 80 minutes à attaquer, défendre, tomber, se relever, se prendre des 4 deb, se faire asseoir par plus petit que soi, quand on tient 80 minutes, et y retourner chaque week-end. Oui, il en faut du courage et une certaine dose de masochisme. Et là, je ne parle que des joueurs dits normaux. Parce qu'au rugby, il existe une race de joueurs à part. Parfois surnommés les poulets sans tête, ceux qui posent le cerveau dans le bus, ou même chez eux, ou ceux qui n'en ont jamais vraiment eu. Ceux qui arrivent complètement habités dans le vestiaire, il y a dans leur regard un truc à part, spécial et digne des plus grands serial killers. Pour nous, les joueurs normaux, la peur nous habite et on la transcende, pardon, grâce au poteau. Eux, c'est la peur elle-même qui a peur d'eux. Ces types se jettent à corps perdu, à tour de bras, dans les jambes de leurs adversaires et s'y filent comme des ânes dans les rucks et autres mauls avec la même agressivité, la même intensité de la première à la 80e. Ça sort souvent avec une moyenne de 10 plaquages par match avec autant de points de suture sur la tronche. Quelques noms qui me viennent à l'esprit, voilà, des personnes comme Olivier Magne, Richard Dourte, Julien Laharague, Mathieu Bastaro, Stéphane Armitage, ou aussi Thierry Dussautoir, Guillaume Guirado, plus récemment encore Julien Marchand, Marcos Kremer, Lavalini, entre autres. Mon référent, moi, dans ce domaine, sur ces 20 dernières années, c'est bel et bien Florian Fritz. Vous voyez, ces types qui rentrent sur le terrain sans émotion particulière et le sourcil légèrement froncé, accompagné d'un calme apparent. Une forme de stoïcisme qui cache cette folie passagère, typique de ces personnes si spéciales. Et ça sort très souvent aussi, hein, pour faire la bringue. Et là, attention aux coups de grisou quand les fils se touchent alors que l'aube apparaît. Parce que ces types sont tout aussi bons en troisième mi-temps que sur les deux premières. Bref, il faut de tout et surtout ce brin de folie grâce à ces mecs hors normes sans qui ce sport n'aurait pas la même saveur.
Allez, deuxième partie de Poulain Rafut aujourd'hui, invité exceptionnel à quelques jours, hein, du premier test du 15 de France face à l'Australie samedi au Stade de France. On a la chance d'avoir avec nous l'ancien troisième ligne de l'équipe de France, Julien Bonner, 75 sélections quand même avec les Bleus, notamment une finale de Coupe du Monde qui nous reste un petit peu en travers de la gorge, probablement un petit peu plus pour lui. D'ailleurs, c'était en 2011, hein, face à la Nouvelle-Zélande. Julien qui a été aussi entraîneur, hein, du 15 de France à partir de 2018 jusqu'à la Coupe du Monde 2019 au Japon. Mais si Julien est avec nous aujourd'hui, c'est pour évoquer un autre sujet, hein, Raph, c'est bien ça?
Ouais, carrément. En fait, on va parler rugby, comme tu l'as dit aujourd'hui. Je sens qu'elle te reste en travers de la gueule, quand même, cette finale de plus, peut-être plus qu'à Julien et à moi, quand même, non?
Hein? Ah, moi, j'avoue, j'ai versé ma petite larme ce soir-là, mais bon.
Bah ouais, il sera question de rugby, bien sûr, des solidarités, comme beaucoup. On en a déjà parlé, voilà, des associations qui tiennent à cœur à nos anciens et à nos joueurs aussi actuels. On a déjà parlé d'un maillot pour la vie et bien d'autres. Et bien, Julien va nous parler de son association, de l'association qu'il a montée avec sa femme. Alors, Jules, dis-nous tout. Tu as lancé il y a peu une association qui s'appelle Andy Move and Fun. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cette association?
Bonjour à tous déjà. Juste pour vous faire l'histoire, en fait, donc moi j'ai ma petite Edith, ma dernière fille, qui est atteinte d'une IMC, donc infirmité motrice cérébrale. qu'on a découvert quand elle commençait à marcher. Voilà, donc on a pris un bon coup sur la tête à l'époque. Elle avait 16-17 mois, quelque chose comme ça. Et puis on a eu l'occasion par le cousin de ma femme qui a un appartement à La Plagne au ski et qui connaissait une antenne handicap là-bas sur place. Donc il dit, bah, si vous voulez venir un jour rencontrer le mec, voir ce qu'ils font. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas, on est monté un week-end et puis ma femme a pris rendez-vous avec Marco Gostoli. Marco Gostoli, c'est le mec qui a inventé en fait la machine. Je vous laisse expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et donc on tombe sur lui, c'est un personnage, hein, mais elle avait pris rendez-vous à 14h. Donc moi j'arrive avec la petite, puis elle avait à peine 3 ans, elle me dit bon, bah, elle fait quelle pointure? Je dis attends Marco, je dis, avant de la mettre sur les skis, je dis déjà comment fonctionne ta machine, comment ça marche. Et puis il a mis la machine, la petite sur la machine, je veux dire, et elle s'est éclatée tout de suite. La première descente, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, donc pourquoi l'assaut? Parce qu'on s'est dit, on a envie de voir le sourire sur les lèvres d'autres gamins, d'autres familles. Parce que nous, la petite, ça lui a permis au niveau inclusion de pouvoir faire quelque chose comme les autres. Au niveau de partager quelque chose aussi avec ses sœurs, avec ses parents, donc toutes ces choses qui étaient compliquées pour elle. Hein. Au quotidien, elle marche avec des attelles, que ce soit jambe droite, jambe gauche, attelle de nuit pour la jambe droite. Donc voilà, c'est un petit peu lourd au niveau prise en charge, enfin surtout pour elle, bien sûr, pour nous, c'est pas forcément évident tout le temps. Mais voilà, il a fallu rebondir et c'est vrai que d'avoir pu vivre ces émotions au niveau du ski, on s'est dit on ne peut pas rester comme ça et ne pas le faire vivre à d'autres familles. Donc voilà pourquoi on dit Move and Fun. Au départ, on va démarrer par le ski. C'est vraiment promouvoir le sport adapté pour les enfants en situation de handicap. Voilà vraiment les statuts de l'asso. Donc aujourd'hui, on démarre par le ski parce que c'est ce qui nous a touché nous en premier. Donc voilà, mais après ça peut être très bien financé, je sais pas, de l'équitation adaptée, ça peut être de la natation, ça peut être aidé à financer un vélo adapté. Il y a tellement de choses à faire au niveau du handicap. Enfin nous on s'en rend compte, c'est vrai que je pense que tant que t'es pas touché personnellement, bah tu dis oui ça existe, hein, il y a des choses qui se font, mais t'es pas autant sensible à ce qui peut manquer, à ce qu'on peut faire quoi. Il y a énormément de choses à faire et c'est pour ça qu'on a créé cet asso pour voilà récolter un maximum de fonds pour faire un maximum d'actions et essayer de d'amener un peu le sourire sur le visage d'autres gamins quoi.
Julien, tu as dit que vous aviez pris un sacré coup sur la tête à l'annonce du diagnostic. Tu as parlé aussi de rebondir. Tu peux nous dire hein, justement comment toi tu as vécu ça? Parce que t'es pas autant sur un terrain, tu étais très expansif par tes qualités, mais tu n'étais pas le joueur le plus volubile. Comment tu as encaissé le choc et comment tu as rebondi finalement? Parce que je crois que tu jouais encore à l'époque.
Ouais, bien sûr, ouais, je vois encore. Elle aura 7 ans en décembre, notre petite Edith, là. Donc, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que, voilà, nous, on voyait qu'il y avait quelque chose quand même qui clochait par rapport à ces deux sœurs qu'on avait eues avant. On voyait qu'au niveau de la marche, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc, la pédiatre n'était pas plus inquiète que ça, une fois, deux fois, et puis on s'est dit, ben, on va voir quelqu'un d'autre, on va prendre un autre avis. Voilà, puis l'autre pédiatre qu'on a vu a dit, ben, faut éliminer au niveau neuro, voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé, quoi. Et puis, il y a bien eu quelque chose, et on ne sait pas à quel moment, est-ce que c'est pendant la grossesse, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, le cerveau est endommagé, et elle a une quadriparésie, donc elle a plus l'hémisphère gauche qui agit sur la partie droite. Plus jambe droite, main droite, mais elle a les quatre membres quand même qui sont touchés. Donc, bah oui, ça te met un coup sur la tête quand on annonce ça. Et après, tu te poses plein de questions sur la prise en charge, sur comment ça va se passer l'école. Et on s'en pose encore aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'elle marchera toute sa vie avec des attelles? Est-ce qu'un jour elle marche un peu plus normalement? C'est tout ça, quoi. Donc, c'est parce que le risque pour elle, c'est vraiment que tout le long de sa croissance, c'est que les os grandissent et pas les muscles. Donc après, tu peux risquer les atrophies de certains membres. Voilà, donc il faut sans arrêt étirer, prise en charge au niveau ergothérapeute, enfin psychomote, psychologue, enfin voilà tout un suivi qui peut être lourd au quotidien aussi, hein, autant pour elle que pour nous. Mais voilà, donc on on a voulu, c'est pour l'aider avant tout, elle, essayer de faire un maximum pour qu'elle puisse vivre normalement. Donc, l'école, elle arrive à aller à l'école normalement, parce que mentalement, on touche du bois, mais elle n'a pas eu de soucis au niveau mental. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de
Et
très positif.
elle est accompagnée aussi, non? Elle est accompagnée à l'école aussi.
Elle
Elle a
a
une
une
AVS.
AVS à l'école, voilà. Alors c'est sûr que tout ce qui est graphisme, le sport, oui. Quand on lui dit, Edith, on court, oui, la pauvre Edith, elle va mettre derrière, quoi. Donc voilà, c'est tout ça, c'est essayer de l'accompagner pour que, puis les gamins sont pas forcément tendres à l'école non plus. Donc voilà,
C'est une jungle, la
faut.
cour de récréation.
C'est un peu ça, et puis elle a des coups de blues aussi, hein. Et pourquoi moi, et pourquoi j'ai les attelles, et pourquoi pas vous, et j'ai pas envie de les mettre, oui, c'est un éternel recommencement au niveau, essayer de la rassurer, essayer de lui faire prendre confiance, et c'est pas forcément évident, quoi. On n'a pas forcément les armes non plus pour ça, quoi.
Il y a les deux grandes sœurs aussi après derrière. Il y a qui ont quel âge d'ailleurs?
La grande, elle a 17 ans et la deuxième, elle a 14 ans. Donc voilà, elle nous aide bien au quotidien, mais même pour elle, elles disent rien. Mais il y a des moments où c'est difficile de voir sa petite sœur comme ça. Alors à la fois quand je l'emmène moi au centre de réduc, je me dis que des fois on a de la chance quand je vois d'autres gamins qui sont dans des états beaucoup plus avancés au niveau du handicap. Et à la fois quand on a son petit cousin qui vient et qui court comme un lapin. Eh ben oui, tu te dis que c'est plus compliqué, quoi. Mais voilà, la vie est faite comme ça. Maintenant, il faut essayer surtout d'avancer pour elle et puis l'assaut pour essayer d'améliorer le quotidien de d'autres enfants qui sont dans la même situation. Parce que nous, on le voit, elle s'éclate vraiment quand on fait ça. Elle travaille aussi sa rééducation. Donc voilà, c'est à la fois travailler, mais avec la banane et le sourire, quoi.
Tu sens que pardon, excuse-moi, tu sens que le milieu du rugby s'est fédéré là, suite à ton article justement dans le milieu olympique, c'est milieu olympique et rugbyrama. Enfin, il y a eu plusieurs différents articles. Est-ce que tu sens que le monde du rugby bouge autour de toi quand même grâce à cette notoriété que tu as eue pendant près de 20 ans?
Ouais, je trouve que forcément, puis ça touche les gamins, donc tous ceux qui ont des gamins, t'es forcément sensible à la cause. Donc voilà, j'ai commencé à relayer un petit peu, j'ai pas encore, voilà, je pense que je solliciterai quelques joueurs qui ont notamment pas mal de followers sur les différents réseaux sociaux et qui pourront relayer l'affaire pour que, voilà, le but c'est qu'on ait le maximum de fonds pour pouvoir faire des choses, quoi. Donc oui, ça bouge. Nous, on a besoin de structurer aussi l'assaut parce que voilà, on a fait le lancement. Donc le lancement, on l'a fait dans les Salons du Loup qui m'ont gracieusement prêté le salon. Voilà, et on voulait pas faire une soirée classique. Au départ, je voulais faire vente aux enchères, mais c'est le temps de récolter les lots, c'est un peu long, il y a plein de choses à faire. Donc on a fait au plus urgent parce qu'il fallait le faire assez rapidement. Et on a mis une dizaine de machines en vente, tu vois, qui se sont vendues. Donc la machine aujourd'hui, la GoToSki, ça s'appelle, c'est un peu une trottinette des neiges. Elle vaut 3000 euros TTC, la machine. Donc bon, bien sûr, avec les 66% déductibles, ça coûte autour de 1000 euros pour une entreprise. Donc on a quand même une dizaine d'entreprises qui nous en ont pris. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est structuré et comment on va les utiliser. C'est-à-dire qu'on veut essayer de les mettre à dispo dans les stations pour d'autres familles, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Mais voilà, il y a aussi le côté sensibilité des stations, puisque nous, on a découvert la plagne. Et la plagne, Marco Gostoli, là, celui qui a inventé la machine. Il est de là-bas, il œuvre là-bas depuis 25 ans et tout est fait pour que le handicap puisse fonctionner, puisqu'il y a des passages facilités aux remontées. Si c'est pas facilité, tu passes par l'école de ski. Et c'est vrai qu'on est allé dans plusieurs autres stations où il n'y a rien, quoi. Rien, rien, rien. Donc ça veut dire qu'il y a énormément à faire aussi au niveau sensibilisation des différents acteurs du ski, quoi, pour pouvoir permettre d'intervenir dans différentes stations.
Alors, messieurs, juste, je me permets de vous couper. On va revenir évidemment sur l'association. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du site internet de l'association, on partagera, hein, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, on partagera le site internet pour venir en aide à Andy Move and Fun. Mais je crois que c'est le moment, Raph, de nous dresser un peu le portrait de Julien Bonnaire version Poulain Rafut. Je crois que c'est maintenant.
Ouais, c'est difficile de rebondir après ce qui s'est dit, quoi, parce qu'en plus, on va réenchaîner, on va continuer à parler de la sauce, quoi, c'est, voilà, je trouve ça super intéressant, mais Julien Bonnaire, pour moi, Julien, c'est 347 matchs, j'ai calculé, matchs en top 16, en top 14, en Coupe d'Europe confondue, 75 matchs en équipe de France, tu l'as dit, Arnaud, Donc, si on part du principe que le type a plaqué, vu que tu étais troisième ligne, Julien, en moyenne 8 mecs par match, Obama, connaissant le type, ça fait 422. Que multiplie 8, ça fait 3376 plaquages. Bref, j'ai envie d'arrondir à 4000 mecs de plus de 80 kilos. Là aussi, Obama a plaqué à grands coups d'athémie. Moi, je suis assez admiratif, moi qui ai su plaquer, je sais pas, une centaine de mecs en 20 ans de carrière, amateur et pro confondu. Voilà, moi, j'étais arrière, donc calmons-nous quand même. Pour moi, Julien, tu représentes la force tranquille, le type sûr et sur qui on peut compter. Pour moi, c'est voilà, la Berjali, ce côté taiseux, besogneux, des Pascal Papé, des Marc Session, des Stéphane Glad, des Olivier Mioux et des Jeff Cook, c'est un peu ma génération. Ouais, c'est Bourgoin, cette place forte des années 2000 où tu savais que tu allais charger surtout devant à chaque fois que tu passais dans le coin. Julien, c'est deux finales de Coupe d'Europe, c'est trois de championnat, c'est un bouclier avec la SM, un titre de Pro D2 avec le Loup, c'est une finale de la Coupe de la Ligue. Ça, c'est cadeau, c'est pour vous dire que la longévité du type qui a donc aussi connu le top 16 et limite le groupe A1. C'est aussi quatre tournois gagnés, dont deux grands chelems. Julien, c'est surtout aujourd'hui un chef d'entreprise. On va aussi parler justement de ce mix, de cette après-carrière là, qui est un peu compliquée avec cette association dont on a entendu parler par Julien. Et surtout, le papa d'une petite Edith et mari d'une femme, Coralie, père aussi de deux autres grandes filles, tout aussi courageuses, et voilà, qui ont créé cette association pour sa fille. Donc, l'association, c'est Andy Move Fun. Et on va continuer à en parler. Donc, voilà, ravi de te recevoir. Je mange un peu mes mots, Julien. Je suis désolé parce que je suis assez ému étant père de deux garçons. Donc, voilà, on va continuer à parler un petit peu de cette
Alors
association.
Alors, justement, si tu veux bien. Moi, j'ai une question. Parce que, Julien, pour t'avoir longtemps côtoyé lorsque tu étais joueur, tu étais quand même quelqu'un de très discret, qui exposait très, très peu sa vie, qui courait pas après les journalistes, contrairement à d'autres de tes partenaires. Tu étais plutôt plus actif sur un terrain que dans les coulisses. Est-ce que tu as dû te faire violence pour justement exposer quelque part une part de ton intimité aujourd'hui?
Faire violence, non. Après, je pense que c'était plus un besoin aussi de pouvoir essayer d'apporter quelque chose de par la notoriété qu'on peut avoir et de par le réseau qu'on peut avoir. Voilà, c'était plus ça. Donc non, je me suis pas forcé. Et puis quelque chose qui me touche, donc t'as forcément plus de facilité aussi pour en parler et envie de faire bouger les choses, quoi.
Julien, aujourd'hui, comment il est possible concrètement pour peut-être moi en tant que fan de rugby et entendant ton discours ou ceux et celles qui nous écoutent, comment concrètement on peut aider l'association Andy Move and Fun aujourd'hui?
Bah, l'aider aujourd'hui, ça peut être par un don, qu'il soit petit, gros, peu importe. On a le site qui s'appelle andymovefun.com où on peut faire des dons en ligne. Voilà, plus on aura de moyens et plus, comme je le disais, on pourra. Bah, déjà, on a déjà 10-11 machines qui vont être dispo, qu'on va pouvoir mettre à dispo dans les stations. Mais après, ça va être. Bah, peut-être payer le moniteur pour les parents qui ont besoin parce que voilà, la machine c'est bien, mais faut savoir l'utiliser aussi. Donc ça peut être financer le moniteur pour la famille qui voudrait éventuellement participer. Ça peut être payer une partie des forfaits de ski aussi pour les familles qui n'ont pas les moyens. Voilà, il y a et puis comme on veut financer autre chose, d'autres sports, donc voilà, tous les dons seront importants. Peu importe le montant, je crois que vraiment chacun peut contribuer, peut soutenir l'assaut. J'ai plus envie de parler de bons de soutien plutôt que de dons. C'est vraiment soutenir, apporter son soutien pour essayer de développer les choses. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, on le voit nous au quotidien. C'est vrai que ne serait-ce que pour les attelles de notre petite, qui voilà, alors normalement, et encore, on est un pays qui est plutôt bien structuré au niveau social, au niveau remboursement, tout ça. L'attelle, normalement, elle est valable pour un an. Mais l'attelle, je veux dire, tu choisis pas la paire d'attelle, tu choisis pas que ta fille elle va grandir ou que ton gosse il va grandir des pieds. On la fait pas pour le plaisir, une paire d'attelle, on la fait parce qu'elle est nécessaire et que le gamin en a besoin. Et aujourd'hui, bah, si t'es pas à la date. Ou un an, ben, tu ne peux pas forcément refaire ta paire d'attelles parce qu'elle n'est pas prise en charge. Donc, ça peut être financé aussi ça peut être ben, une famille recomposée qui va avoir besoin peut-être d'un siège adapté pour son gamin. Et ben, aujourd'hui, oui, la famille recomposée, elle a droit à un siège, sauf que ben, le gamin, les parents sont séparés, il a besoin de deux sièges, quoi. Donc, ça peut être aussi aider à financer un deuxième siège pour une famille qui en a besoin. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire et c'est compliqué de tout mettre en place, mais On va structurer correctement, faire les choses dans l'ordre et puis essayer d'en faire le maximum, ça c'est sûr.
D'autres familles se sont rapprochées de vous, Julien, déjà, depuis que vous avez commencé à communiquer?
Oui, il y a pas mal, on a eu pas mal de messages de soutien de familles dans le même cas que la nôtre, des personnes qui ont créé d'autres assos ou avec lesquelles on va certainement pouvoir faire des actions. Donc oui, on sent que ça réagit, on sent que les gens sont touchés autant que nous on l'est. Donc voilà. Et puis il y a tellement de sortes de handicaps. Il y a des handicaps qu'on voit, il y a des handicaps qu'on voit pas. Il y a beaucoup de personnes touchées par le handicap et pour moi on n'en parle pas assez. Et même si c'est en train de bouger un petit peu, je pense qu'il y a tellement de choses à faire à tous les niveaux qu'on pourrait booster un petit peu tout ça.
On sent que vous êtes vraiment, enfin, que tu es aux prémices justement du lancement de l'association. Comme tu dis, il y a énormément à faire. Moi, j'aimerais revenir sur la première fois où tu as vu ta fille sur des skis. Ça doit être assez énorme quand même, je sais pas.
Ouais, c'est génial. Enfin, franchement, je pense que quand t'es pas touché, tu peux pas vraiment te rendre compte. Mais la voir s'éclater comme ça, elle a rigolé toute la descente. Et puis vraiment, cette sensation de pouvoir faire un truc ensemble aussi avec ses sœurs, avec nous, quoi, de pouvoir partager. Et puis elle, cette sensation de liberté, parce que la machine, si tu veux, c'est que vraiment comme une trottiski, une trottinette de ski. Avec nous, on a un guidon arrière, on la pilote de l'arrière, avec un ski de chaque côté de la machine, et on descend comme ça en la pilotant. Et c'est assez maniable. Moi qui n'ai pas skié pendant toute ma carrière, j'ai pas pris le risque de me casser une jambe ou quoi que ce soit. Je suis
Contrairement à
pas bon
d'autres.
ski. Ouais, ça peut arriver, mais disons que j'ai toujours fait gaffe à ça et donc j'ai pas skié pendant 20 ans, quoi. Mais c'est assez maniable et assez facile à manipuler. Donc voilà, on sait. Bah forcément, t'es touché, t'as la larme à l'œil et t'as qu'une envie, c'est de recommencer pour elle, quoi. Et ce jour-là, le jour où on y était, on a aussi Marco qui a fait skier un mec qui était en fauteuil. Il a inventé aussi un autre siège avec un vérin qui permet de faire skier la personne debout. Et de voir ce mec en pleurs, voilà, c'était aussi hyper touchant. Et forcément, ça te donne envie de te bouger pour faire des actions comme ça, quoi.
On l'a dit, hein, on va remettre sur les réseaux de Poulain Rafut le lien qui vous permettra d'aller sur le site andymovefun.com. Julien, on voulait quand même profiter de ta présence pour parler un petit peu de l'équipe de France. L'équipe de France qui joue, hein, samedi contre l'Australie, une équipe que tu as affrontée quelques fois. Quel regard tu portes, toi, sur cette nouvelle génération?
Bah, très bon regard. Il y en a beaucoup que j'ai côtoyé pendant un an et demi où j'ai pu être avec le staff. Je crois surtout qu'au-delà d'être des grands joueurs, parce que je pense que techniquement, on n'a rien à envier à toutes les autres nations, mais au-delà de la qualité technique du mec, c'est vraiment le côté humain, moi, que je trouve qui fait la différence. Et c'est tous des bons mecs, c'est tous des gars qui ont de bonnes valeurs, et je crois que ça se retrouve sur le terrain. Et c'est pas pour rien qu'ils vivent bien ensemble. Et puis cette ambiance-là, je pense vraiment que la grosse différence, elle est là. On a un potentiel qui est énorme, mais en plus, il y a un esprit d'équipe qui est hyper, hyper poussé, quoi.
Aujourd'hui, on le voit, le staff de l'équipe de France a un confort de travail qui est quand même assez exceptionnel. C'est du jamais vu jusque-là. Est-ce que tu regrettes pas qu'à ton époque, parce que tu as fait en fait, c'est la fin d'une certaine époque je vais pas dire de management, mais de staff qui était un petit peu remis en question assez rapidement. Là, les mecs sont installés. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu de regret de voir que c'est pas les mêmes conditions de travail que ce que tu as vécu jusqu'en 2019?
Ouais, bah après, ça peut se comprendre aussi dans le sens où la Coupe du Monde est en France qui arrive. Donc voilà, si on se donne pas les moyens de vouloir réussir, alors oui, ça aurait peut-être pu être fait plus tôt. On peut toujours ressasser le passé, mais ouais, je crois surtout que au-delà des arrangements qu'il y a eu, je crois qu'il y a vraiment un groupe depuis quelques temps qui tient vraiment la route et qui est en nombre aussi. C'est pas ce qu'on a eu par le passé, forcément. Il y a des postes où on était plus que juste et on n'avait pas forcément le choix. voilà, donc tu pouvais pas dire au mec, bah, si ça te va pas, tu rentres chez toi parce que tu n'avais pas le nombre. Donc voilà, je pense que là, il y a une concurrence qui est saine, il y a une grosse concurrence, c'est ce qui fait aussi avancer tout le monde, ce qui pousse tout le monde à tirer le niveau vers le haut. Et voilà, je crois que vraiment, il y a, si c'est pas cette, enfin, l'année prochaine qu'on arrive à faire quelque chose, bah, je sais pas quand on va le faire, quoi.
Quel souvenir
Julien,
tu...
justement, attends, avant de passer au souvenir, Raph, moi, il y a une question qui me vient. Tu as fait partie d'une génération vraiment dorée en équipe de France. Tu as connu beaucoup de titres, des grands chelems, finale de Coupe du Monde. On dit qu'aujourd'hui, l'équipe de France n'a jamais été aussi forte. Est-ce que tu le partages? Est-ce que tu as le sentiment que cette équipe, elle est encore un cran au-dessus de celle que toi, tu as connue? Moi, je sais pas, je me rends pas bien compte, mais oui, c'est possible, ouais, c'est possible, en nombre en tout cas et en qualité, oui, c'est possible qu'on soit, c'est certainement peut-être la meilleure équipe de France qu'il y ait jamais eu. Après, oui, nous on avait un très bon groupe, mais tu vois bien la Coupe du Monde 2011, on s'en sort, on aurait pu ne pas sortir de la poule, on finit en finale. Voilà, donc il y avait beaucoup du mental qui jouait, mais peut-être pas autant de qualité au niveau rugbystique.
Quelle
Enfin,
aventure quand
il y a
même
quand même
2011, hein.
Il y a quand même 8 ans enfin, moi, je vois c'était ma génération, justement, j'étais spectateur et supporter de cette équipe de France. Quand même, entre 2003 et 2011, il y a quand même, bah, j'en parlais justement pour toi, Julien, il y a eu quand même 2 grands chelems, 4 tournois gagnés, et puis c'est toute une génération qui a. Enfin, les trophées, là, ils sont dans le. On pourra en parler, on posera la question à Julien, peut-être au sortir de la Coupe du Monde, mais les trophées, maintenant, ils sont dans le placard pour cette génération-là, en tout cas la tienne, Julien. Celle qui est arrivée à gagner déjà un tournoi, il y a encore du boulot pour gagner une Coupe du Monde, c'est ce qu'on attend de tous. Mais moi, j'ai souvenir de la génération, c'est difficile de pouvoir de comparer les deux, non, Arnaud?
Non, oui, non, non,
Ouais,
c'est
bah, moi.
difficile de comparer parce que surtout, enfin, génération 2011, Julien en parlera 10 fois mieux que moi, mais quelle aventure! Enfin, c'est juste improbable. Je me souviens de ce match à Wellington, perdu contre le Tonga où on est tous au fond de la gamelle, et puis une espèce de renaissance, ce match contre l'Angleterre qui, ce quart de finale qui est maîtrisé de bout en bout, le match la demi contre les Gallois qui est. Alors qu'on joue 1 heure en supériorité numérique, si je me trompe pas, hein, Julien. Je crois que c'est 1 heure pour
Ouais, c'est
Warburton
ça.
qui prend un rouge, voilà.
Ouais.
Et on s'en sort petitement. Et puis, il y a ce dernier match où on y croit tous. Et puis, ça se joue à un point. Enfin, Julien, enfin, c'était, je sais pas quelle est la place de cette aventure dans ta mémoire. Et moi, ça restera jamais le plus beau souvenir de journaliste que j'ai eu à vivre. Parce qu'en plus, on est passé par toutes les montagnes russes. Les joueurs nous
Ouais, c'est ça.
détestaient parce qu'on disait des trucs. Il y avait une espèce de guerre. Et en fait, aujourd'hui, quand on en reparle 10 ans après avec beaucoup de cette génération, on en rigole, quoi.
Ouais, c'est ça. Je crois qu'on était, voilà, on a, comme tu dis, c'est les montagnes russes qu'on a été capable de faire des super choses. Le match d'après, on était catastrophique. Voilà. Puis il y a eu une prise de conscience, quoi. Surtout, enfin, moi le premier, hein, c'était, moi, j'avais pas envie de rentrer à la maison, quoi. C'était ma dernière Coupe du Monde. Je savais que ça allait être la fin de ma carrière internationale. Donc j'avais qu'une chose, c'est tout lâcher sur le terrain, quoi. Donc voilà, et puis ce match de l'Angleterre où voilà les meilleurs ennemis, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, que ce soit au niveau de l'engagement, au niveau de l'état d'esprit, voilà, et puis on échoue en finale d'un point, quoi. Donc ça fait encore chier aujourd'hui parce que j'aurais préféré en prendre 30 ce jour-là plutôt que de perdre un petit point, mais voilà, en tout cas ça reste malgré tout un super souvenir, une super aventure, et on était rentré avec beaucoup de fierté parce qu'on avait rendu les gens fiers, les supporters étaient fiers de nous, et je crois que c'est ça aussi qui restait, même s'il y avait une grosse déception. L'important c'était d'avoir relevé la tête et d'avoir su rendre les gens fiers de nous, donc voilà, pour ça on avait réussi notre mission.
Les
Quand
journalistes
tu
aussi
parles.
étaient fiers, hein, je peux te le dire, Julien, même si on avait vécu des moments parfois douloureux, enfin, ça reste, je le redis, le plus beau souvenir en tant que journaliste d'avoir vécu ces 8 ou 10 semaines aux côtés de l'équipe de France. C'était juste incroyable.
Ouais, et puis
Raph,
il y a une,
pardon.
en fait, non, je t'en prie, mais comme en 98 avec la Coupe du Monde gagnée par l'équipe de France, on sent que le pouvoir est pris par les joueurs. 99, pareil, demi-finale. Avant la demi-finale, les joueurs, on avait parlé avec Domi, les joueurs avaient pris le pouvoir. Là, il y a eu une prise de pouvoir des joueurs, non? Il n'y a pas un moment, en fait, où vous avez dit, ouais, vous avez votre destin entre les mains Et puis, autant le staff est là, mais il est à côté, et là, c'est vous qui avez les cartes en main, quoi. Non, il n'y a pas eu ce déclic.
Ouais, mais c'est ça, mais je crois que c'est surtout, enfin, t'as beau avoir le meilleur staff au monde, il y a un moment où c'est pas le staff qui est sur le terrain, quoi. Donc, si tu te prends pas minimum en main, si t'as pas envie de gagner tes duels, si t'as pas envie de passer sur l'adversaire, eh ben, le rugby, c'est ça, quoi. Et puis tu passes pas. Donc, ce jour-là, notamment l'Angleterre, ben, tout le monde était vexé, tout le monde avait envie de faire les choses, et comme par hasard, on fait le match qu'il faut et on n'a pas été inquiété, quoi. Donc voilà, c'est juste comme quoi l'état d'esprit, le mental, il est hyper important en sport de haut niveau et encore plus sur les matchs décisifs.
Quel souvenir tu gardes de ton passage justement dans le staff avec Jacques Brunel, notamment pour la Coupe du Monde en 2019 au Japon? Tu es aux prémices justement de cette génération, tu l'as dit, hein, tu connais pas mal de joueurs justement qui sont sur le terrain aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de cette épopée?
Mais c'était mitigé. Disons que quand Jacques m'a appelé, j'avais un message sur le portable en me disant, voilà, j'aimerais discuter avec toi. Bon, j'avais pas le numéro enregistré de Jacques, hein, je t'avoue. Mais et du coup, il me dit, je laisse écouter le message sur le répondeur. Et puis une demi-heure après, je reçois peut-être 20 ou 30 messages de potes. Ah, félicitations, machin. Mais j'ai félicitations de quoi? J'étais au courant de rien. Je regarde Rugbyrama et on m'annonçait en équipe de France. Alors j'étais au courant de rien, moi. Donc voilà, comme ça s'est fait, tu vois. Donc je rappelle Jacques le soir. Il me dit, voilà, j'aimerais que tu viennes entraîner la touche. Je lui dis, écoute, Jacques, je dis, moi, j'ai pas de diplôme pour ça. Voilà. Il me dit, ouais, t'as pas besoin de ça. Si t'as sauté pendant 15 ans, il me dit, si t'as besoin d'un diplôme pour entraîner, je dis, ouais, mais attends, entre avoir sauté, c'est une chose, mais après, c'est comment tu animes ta séance, comment tu prépares tout ça. Voilà, donc je lui laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. C'était le week-end d'avant. Je lui dis, bah, laisse-moi la semaine pour réfléchir, quoi. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je risque? L'équipe de France, elle ne gagnait pas. Je me suis dit, bon, c'est l'équipe de France, quoi. Je ne me voyais pas refuser. Ça aurait été n'importe quel club, je ne serais jamais allé. Je ne me voyais pas entraîner, mais là, l'équipe de France, je ne me voyais pas refuser, quoi. Donc, je savais que ça allait être compliqué, hein. On arrivait aussi à une période difficile. Guinovès venait de se faire limoger. On arrivait à ce moment-là. Je t'avoue que ça a été compliqué les premières séances, parce que jamais fait. Voilà, donc j'ai pris quelques bonnes suées les premières séances. Et puis après, bah, tu te prends en jeu parce que je suis un compétiteur, parce que j'aime gagner, parce que voilà. Donc j'ai été clair avec les gars dès le début. Je leur ai dit, voilà, moi je vois plus mon rôle comme un rôle d'accompagnateur et qu'on décide des choses ensemble. Et par contre, une fois qu'on a décidé, il faut qu'on aille au bout, quoi. Au bout de ce qu'on a décidé dans la semaine, quoi. Donc voilà, c'est après, au fil des semaines, j'ai pris un peu plus de confiance. Ce qui a été difficile, c'est ce qui était frustrant, c'était de ne pas pouvoir avoir la même interaction que quand tu es sur le terrain, quoi. Des fois, je voyais des trucs de la touche, mais le temps de. Alors, tu appelles dans le toki, tu appelles le kiné, ouais, fais passer le message, il faut faire telle touche. Le temps que le message passe, la touche est déjà passée, quoi. Donc, c'était un peu frustrant par rapport à ça. Et plusieurs fois aussi, on n'est pas allé au bout de ce qu'on avait décidé. Parce qu'on avait identifié contre les Argentins que, par exemple, bah, quand Matera était devant, ils sautaient au fond. Ils nous l'ont fait, on n'a pas réagi, alors qu'on aurait pu leur piquer le ballon. C'est tout, bah, c'est tout ce côté-là qui était frustrant, qu'on soit pas vraiment donné les moyens d'aller au bout de ce qu'on avait décidé en début de semaine. Donc voilà, c'est vrai que quand tu es sur le terrain, bah, tu peux agir plus rapidement que quand tu es assis dans la tribune.
Bon, à côté frustrant, mais quand même beaucoup de plaisir à raconter tous ces moments-là, Julien, d'après ce qu'on perçoit dans ton récit. Un petit mot, Julien, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ton association, on a parlé un peu du passé, mais donc tu es devenu boulanger du côté de Saint-Savin, mais j'ai cru comprendre qu'un rôle peut-être de consultant dans un club pourrait t'intéresser. C'est vrai ou faux?
Ouais, j'ai dit ça, oui, c'est vrai. Non, après, je me verrais pas entraîner à temps complet et partir, parce que là, je le vois bien quand j'ai eu l'occasion, hein, de croiser que ce soit Pierre Mignoni quand il m'a entraîné à Lyon ou tous ceux que j'ai côtoyés. C'est à l'excès, quoi. C'est tous les jours, c'est peu de jours en famille. Ouais, donc aujourd'hui, j'ai pas envie de me relancer là-dedans. C'est comme je disais, quoi, être consultant un jour ou deux par semaine, pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que ça peut être intéressant aussi de partager son expérience et d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Mais aujourd'hui, être entraîneur à temps plein, non, ça me botte pas du tout.
Ouais, pour conclure, Julien, est-ce qu'on aura la chance de te croiser sur un match de l'équipe de France durant cette tournée de novembre? On le sait, tu es à la fois boulanger derrière les fourneaux avec la hausse des prix, tu es partout, tu es à la caisse avec ce rôle de président en plus de l'association pour ta fille. On imagine que voilà, l'emploi du temps est bien dodu, bien gaillard et doit être bien rempli. Donc, ça va être compliqué pour toi de venir jusqu'à Paris et Stade de France, peut-être pour supporter cette nouvelle génération.
Ouais, effectivement, comme tu dis, le calendrier, il est bien, bien chargé. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité, je sais pas prévu pour l'instant, si j'aurai l'opportunité d'être au stade, mais en tout cas, si je ne suis pas au stade, je serai forcément devant mon écran et avec grand plaisir, en tout cas, pour être le premier supporter des Bleus. Voilà.
Bon, en tout cas, Julien, un grand merci. On va tous évidemment être derrière le 15 de France à partir de samedi. Premier match face à l'Australie. Le suivant sera le samedi 12 à Marseille face à l'Afrique du Sud. Gros, gros défi pour cette équipe de France. Et puis le dernier à Toulouse face au Japon. Julien, un grand merci. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, handymoveandfun.com. On va mettre le lien évidemment sur les réseaux de Poulain Rafut. Donc n'hésitez pas, faites preuve de générosité. Et puis, j'imagine, Julien, que s'il y a une vente aux enchères, tous les anciens, les papés, les paras, les trinducs, les arts-esquifs feront probablement preuve également de générosité en offrant probablement une paire de crampons, un maillot, peut-être un maillot de cette Coupe du Monde 2011 qu'on a évoqué ensemble.
Ouais, pourquoi pas? Non, je les ai pas encore sollicités, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas, on a fait au plus urgent et on va avoir quand même un équipage qui va nous faire le rallye Gazelle. On n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a créé assez rapidement l'association. On a deux filles qui vont courir pour l'assaut du 5 mars au 18 avril. Avec une voiture décorée aux couleurs de l'assaut, donc ça va être sympa, ça fera encore un coup de com' dans quelques temps pour l'association.
Génial.
Voilà.
Raph, comme d'habitude, le mot de la fin, il est pour toi.
Ah Julien, moi tu sais, j'ai jamais joué en équipe de France, j'ai jamais trouvé les clés, donc j'ai pas de maillot à te filer pour le truc. Par contre, j'ai loupé les six finales et il me reste les six costards que j'ai mis pour les six finales que j'ai loupées. Je t'en file un et tu le revends, à mon avis, ça peut partir à prix d'or. Non, plus sérieusement, écoute, je suis content d'avoir fait ta connaissance. On a fait la connaissance l'un contre l'autre quand tu joues encore à Bourgoin. Et puis, on a bossé ensemble, je t'ai dit, pour le groupe Couleur. Donc, ravi de voir l'homme derrière le sportif, cette association, bien sûr, qu'on va la mettre en avant. C'était aussi le but de cette interview aujourd'hui. On te souhaite bon courage et derrière les fourneaux et avec ta fille et avec tous les enfants que ton association va soutenir. En tout cas, on sera derrière. On sortira une petite capsule de Poulain Rafut, justement spéciale, qu'on mettra sur les réseaux. Et puis, s'il y a besoin de quoi que ce soit, en tout cas, on est présent. Moi, j'irai mettre un petit billet au moment où je vais raccrocher de cette émission. Voilà, en tout cas, merci à toi.
Merci à vous, ouais. Merci, bonne journée.
Merci
Ciao.
messieurs, et nous on enchaîne avec la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie dans Poulain Rafut. Raph, on va évidemment débriefer l'interview que Julien Bonnaire nous a accordée. On a beaucoup parlé de rugby, hein, puisque Julien a porté quand même le maillot de l'équipe de France à 75 reprises, on l'a dit, finaliste de la Coupe du Monde 2011. Et puis il a été entraîneur sous l'ère de Jacques Brunel de cette équipe de France. Mais on a beaucoup parlé aussi de cette association qu'il a montée pour sa fille qui souffre d'un handicap. Et on t'a senti très ému à l'évocation de ce sujet, même si Julien a fait preuve de beaucoup de dignité, de beaucoup de pudeur.
Oui, bah déjà, ça fait du bien de connaître l'homme derrière le joueur. C'est un taiseux, hein, Julien Bonnaire. C'est la berjalie, ça parle peu. Par contre, quand ça parle, ouais, tu l'écoutes. Et puis, bon, son palmarès, on le connaissait. Tu l'as dit, 75 sélections, plus de 340 matchs. Ça force le respect. Moi, j'étais fan du joueur. Et puis là, avec cette association, je trouve que ça humanise un peu plus encore le bonhomme. On l'a senti touché. C'est dur. Et comme il le dit lui-même, tant que tu n'es pas touché par la problématique, c'est très difficile d'en parler. Il en parle super bien. Il est aux prémices d'une association en fait qui va essayer de ratisser large sur tous les sports et au-delà du ski. Donc voilà, pour sa fille, pour sa femme, pour ses filles aussi, parce qu'on pense aussi à ses deux filles de 17 et 14 ans. Ça doit être aussi complexe pour elle. Mais c'est bien, tu vois, de pouvoir parler de ces. De ces handicaps, d'essayer de les humaniser et puis de dire que le monde du rugby se mobilise aussi pour faire avancer les choses. Je pense qu'on fait partie d'une génération aussi qui a la possibilité de prendre la parole sur tout ça. Et puis, voilà, si le rugby se dit au soutien, il le saura. C'est une des valeurs majeures, comme on l'a expliqué la semaine dernière avec Philippe Séa. Voilà, soyons au soutien de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, Julien a besoin de nous, donc à nous de relayer sur les réseaux sociaux, à nous de faire écouter ce podcast le plus possible pour que les gens comprennent, voilà, qu'il est important d'être au soutien avec 5, 10, 15, 20 euros, 5 euros en fait, ça, parce que plus tu les multiplies, plus tu peux acheter justement des fauteuils roulants, tu peux acheter je dirais du matériel pour que ces personnes aient accès au sport comme toi, comme moi et comme les personnes entre guillemets valides.
Allez, handymoveandfun.com, vous retrouverez évidemment toutes les informations nécessaires si vous souhaitez faire preuve de générosité. Alors la transition, elle est pas simple, mais on a aussi quand même parlé un peu de rugby hein, avec Julien. On a beaucoup parlé de l'équipe de France. Le 15 de France de Fabien Galthié qui débute samedi sa traditionnelle tournée hein, du mois de novembre. D'abord l'Australie, on l'a dit, l'Afrique du Sud, puis le Japon. Une série de 10 victoires, hein, Raph, en cours. Est-ce qu'on sera à 13 à la fin du mois de novembre?
Mais oui, je leur souhaite, en tout cas, je nous le souhaite pour les supporters. Le rugby va mieux depuis des années maintenant. L'équipe de France qui fait rêver. Antoine Dupont, le gendre idéal qui a été confirmé comme capitaine de cette équipe de France. C'est une équipe de France qui gagne. Maintenant, le danger, c'est pas obligatoirement l'adversaire. On en a déjà parlé, hein, c'est plus le 15 de France. Mais enfin, je vois pas où il y a le loup. Il y a pas de, enfin, pour moi, il y a pas de loup. Alors peut-être que ce serait, oui, l'Afrique du Sud. Attention à l'Afrique du Sud parce qu'elle est quand même championne du monde en titre. Le Japon aussi qui a quand même fait, même si la Nouvelle-Zélande va mal, le Japon qui perd de 7 points ou de 6 points face à la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on avait vu qu'ils avaient fait une très très belle Coupe du Monde aussi chez eux. Donc et la dernière fois qu'ils sont venus en France, je pense qu'il y avait une victoire si je ne m'abuse aussi face à l'équipe de France.
Un match nul.
Oui,
exactement. À l'Arena. À Paris, ouais. La défense Arena.
Voilà, donc écoute, je pense que l'équipe de
méfiance.
France. A... Exactement. Ouais, méfiance, mais plus à la fois dans nos rangs que de l'adversaire, mais on les sent monter en puissance depuis des années maintenant. Et voilà, il y a un tournoi à préparer, il y a une Coupe du Monde à préparer, donc on ne les imagine pas perdre en fait. C'est difficile de les imaginer perdre en tout cas.
Bon, ben, en tout cas, on suivra ça évidemment durant tout le mois de novembre. L'équipe de France de Fabien Galthié, trois gros rendez-vous dans la perspective évidemment du prochain tournoi destination l'hiver prochain. Pour conclure, Raph, on va parler, même si l'équipe de France phagocyte un petit peu l'actualité, on va parler de top 14 avec une affiche de rêve, mon Raph. Oui, une affiche de rêve. Samedi, 15h, le Classico est de retour. Depuis quand n'a-t-on pas vu le Stade Toulousain premier du championnat? Ça, c'est plus classique. Mais le Stade Français deuxième. Le vrai Classico de retour, des Classico, t'en as joué, t'en as connu, tu t'es battu, t'as fait des troisièmes mi-temps aussi probablement. J'imagine que ça te fait plaisir de voir cette affiche, le premier contre le deuxième, Stade Toulousain, Stade Français, samedi 15h.
Oui Arnaud, tu parles de Classico, oui le Classico j'en ai vécu, je me suis rarement battu quand même, je me battais pas trop, moi tu sais, moi j'étais à l'arrière ou à l'aile, donc j'avais pas le temps d'arriver que Bibi et Yannick Brouille s'étaient déjà foutus sur le coin de la gueule, donc non mais après plus sérieusement, c'est difficile de comparer aujourd'hui les deux équipes, le Stade Toulousain il survole un petit peu ce début de championnat, même s'il perd contre Bayonne ce week-end. Le Stade Français aussi a eu un calendrier aussi qui n'était pas le calendrier les plus durs de ce début de saison, on va dire. Ils sont deuxièmes.
Et ils l'ont bien négocié, ils l'ont très bien négocié. Attention,
ils l'ont très bien négocié avec une très très belle réaction du vestiaire, notamment après les prises de parole de leur président, qui sont tous mis derrière Gonzalo Quesada. Mais aujourd'hui, c'est difficile de comparer ces deux équipes parce que on arrive au match d'automne et c'est les problématiques qu'on rencontre d'année en année. Mais même il y a 20 ans, c'était toujours la même problématique. Le Stade Toulousain va traverser un mois et demi très très compliqué. C'est dur pour eux parce que voilà, ils sont amputés de leurs internationaux et ils se retrouvent face à des équipes qui vont profiter de ça justement. Le Stade Français a bien envie de profiter de ça pour se rapprocher de cette première place. Mais le Stade Toulousain aujourd'hui est au-dessus en tout cas selon moi, même privé de ses internationaux parce que il déroule. Alors que le Stade Français est en reconstruction, c'est une place qui est presque extraordinaire cette deuxième place pour le Stade Français. Ils peuvent la confirmer en faisant un coup à Toulouse, bien entendu, mais voilà, j'ai pas envie de m'enflammer pour le Stade Français, sachant que le Stade Toulousain sera amoindri ce week-end. Donc voilà, c'est rendons à César ce qu'il faut rendre à César. Le Stade Toulousain aujourd'hui avec ses internationaux est au-dessus de la mêlée. Et le Stade Français peut faire un coup ce week-end, mais ce sera pas à armes égales.
Eh ben on verra ça. Ce sera samedi 15h, le retour du Classico évidemment samedi soir 21h. L'équipe de France au Stade de France face à l'Australie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mon Raph. On se retrouve la semaine prochaine. J'allais dire même horaire, mais l'horaire, on s'en fiche un peu. On se retrouve dans ce fabuleux podcast qui est Poulain Raffut, toujours avec le sourire, non?
Merci Arnaud, j'ai été ravi de passer ce moment avec toi, avec Julien notamment. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, toujours avec la banane bien sûr. Allez, salut.